France Musique. Les grands entretiens, Judith Chen.
Je m'appelle Ludovic Thézier, je suis né un 10 septembre 68 à Marseille et je suis baryton.
On entend beaucoup de rôles mozartiens, Ludovic Thézier, dans toutes ses premières années. C'est vraiment le ferment de beaucoup de choses, ou c'est aussi le gage d'une jeunesse vocale, une souplesse particulière peut-être.
Dans Mozart, il y a tout. Mozart est déterminant. C'est le catalyseur de la musique, et en particulier de l'art lyrique. Dans la trilogie avec Da Ponte, c'est une source d'inspiration permanente. C'est effectivement un secret de jeunesse, quoi. C'est la crème anti-ride vocale ultime. Chez Mozart, on est matiné de bel canto et d'expressionnisme. On est déjà dans cette charnière vers le vérisme. Et donc, ce qui est extraordinaire, c'est que dans Verdi, il y a les deux. Et il n'y a pas les deux sur l'ensemble de son œuvre. Il y a les deux au sein même d'un seul rôle. Il faut chanter de manière différente et dans des styles différents selon le moment d'un personnage tout au long d'une soirée. Donc, en fait, quasiment tout dans le bel canto est écrit. L'émotion est composée dans la manière dont les vocalises sont distribuées le long d'une phrase. Donc il ne faut pas en ajouter, il faut se contenter. Mais quand je dis ça, en même temps, je me dis waouh, et c'est pas facile. Il faut se contenter de très bien le faire. Et en théorie, tout le monde pleure à la fin, parce que Bellini est un génie, parce que Donizetti est un génie plus, et que si effectivement on chante bien tout ce qu'il y a de composé, et qu'on le fait tel que les compositeurs l'ont désiré, l'ont pensé, on touche. Et surtout, si on arrive à le faire, ça crée des personnages qui sont assez insaisissables, et donc très riches, et très surprenants, et donc très passionnants, que ce soit du reste pour le public et pour l'interprète lui-même, qui voyage à travers des moments, des mondes, des climats très variables. Donc c'est beaucoup plus passionnant. Donc là, c'est une gageure particulière. Je crois que c'est à peu près le seul qui mette la barre aussi haut, parce que passer finalement du beau chant, du bel canto, à quelque chose de beaucoup plus vériste, beaucoup plus en tout cas expressionniste, ça n'est pas toujours simple. Et on jongle sans arrêt chez Verdi entre ce grand style, le grand style du bel canto, et ce style nouveau et qui est beaucoup plus sur la parole et sur les accents. Et c'est peut-être pour ça que ses œuvres sont si explosives et si passionnantes. Et le fait de pratiquer Mozart tel qu'il se doit, c'est vraiment le gage, par exemple, de pouvoir chanter un jour Verdi. Si tant est que la voix se développe et soit appropriée, on chante Verdi comme Mozart et Mozart comme Verdi. Les deux, pour moi, sont en miroir. Oh,
a quelqu'un qui va être très important, c'est Nicolas Joël.
Ah ben oui.
C'est Toulouse, c'est le Capitole.
C'est Toulouse, c'est le Capitole, c'est Nicolas, et c'est... Tout de suite, on sent qu'on est dans un théâtre important, où il y a une vibration particulière, où il y a une exigence particulière, on n'est pas n'importe où. Il y a un orgueil de faire des grands spectacles, de créer, et on vous le fait sentir. Pas méchamment, mais c'est clair, là, on est en première division, on est sérieux. Et non pas du reste qu'à Lyon, ça a été différent, mais à Lyon, j'ai été protégé par la troupe. Là, tu es bon, tu n'es pas bon, tu ne reviens pas. Ça, c'est clair, je veux dire, on est dans la loi du marché, là, voilà. Et c'est une bohème, et je fais Chonard, et dans Chonard, alors que j'avais déjà chanté à Lucerne, donc bien avant Marcello, je débute Chonard, et Chonard, c'est un rôle vraiment où on peut jouer sa carte, et c'est ce que j'ai fait. Et à la suite donc de cette série, Nicolas m'attrape par la manche dans un couloir, et me dit, voilà, l'année prochaine, je fais Les Pêcheurs de Perles, je t'en donne 3. Et je le regarde, je dis, mais vous êtes sérieux? Parce que c'est juste pas du tout le voilà, hein, c'est pas le même calibre. Hein. Il dit, oui, je suis sûr que tu feras ça très bien, tu regardes la partition. Je crois qu'il même il avait déjà la partition en main, il m'a donné la partition, je regarde. Grosse gageure, gros gap quand même. Et allez, vraiment, c'est 3 marches d'un coup. Et effectivement, je fais Des Pêcheurs de Perles l'année suivante, en deuxième distribution. Le système que je trouve remarquable, parce qu'on est légèrement protégé par rapport au projecteur de la première, mais on est quand même dans les mêmes conditions, avec le même chef, parfois avec des collègues partagés, donc c'est on répète beaucoup. Tout le monde se plaint du fait que les grandes stars voudraient répéter moins, mais ça donne dans ce cas-là l'opportunité à des jeunes chanteurs qui ont besoin de répéter pour s'approprier non seulement un rôle, mais leur métier, de répéter beaucoup, d'avoir une quantité de répètes assez élevée, et j'en ai beaucoup bénéficié. Et je fais Des Pêcheurs de Perles apparemment très honorable, puisqu'au sortir Des Pêcheurs de Perles, j'étais très content, j'avais passé un cap, donc j'aurais pu me poser. Le même Nicolas me réattrape par la même manche ou à peu près, et me dit, bon voilà, c'est formidable et tout, je suis ravi, l'année prochaine, je fais un Tannhäuser, et je te veux, tu ouvres grand les yeux, tu dis pardon, et je te veux dans Wolfram, dans le premier rideau. Et j'ai dit, alors là, cet homme est fou. Oui, mais vraiment. Mais en même temps, il a vu tellement juste sur Les Pêcheurs de Perles que tu te dis, oui, y a, voilà. Et là, c'est pareil, j'ai relevé le gant et ça a très très bien marché.
Qui adoriez Wagner depuis votre petite enfance. Là, voilà, ça y est, on y touche.
Oui. Là, on remet tout à plat. Voilà. Et on bosse beaucoup, des heures et des heures et des heures. Et en fait, vous savez, lorsque la laque n'est pas encore de la brillance qu'on souhaite, on reponce, on relaque. Et on refait. On refait jusqu'à ce qu'on obtienne le vernis qu'on cherche. C'est plusieurs mois, j'avais la chance de travailler avec probablement, à mon sens, la meilleure chef de chant de France, à Strasbourg, donc, qui était la chef de chant de l'Opéra de Strasbourg, Yolande Huiter, qui en a travaillé ça ensemble, et ça a été assez magique. J'étais entouré que de types qui jaugeaient de 2 mètres ou 1,90 m, avec des grandes voix et des grandes gueules aussi, parce que le chanteur wagnérien est une grande gueule, mais très attachant, hein, et c'était magnifique. Le Capitole ayant les ambitions de l'époque, vous doutez bien qu'autour de moi, il n'y avait que des pointures. Steinberg à la baguette, extraordinaire chef wagnérien, mais pas le moins exigeant. Hein. C'était un peu une boutade, lorsque je dis régulièrement, mais vous savez, moi j'ai commencé le chant pour avoir la meilleure place du théâtre, et c'est vrai. quand tu es jeune chanteur et que tu es amené à chanter à côté, tout à l'heure on parlait de Van Damme, Madame Balsa, j'ai chanté Carmen avec elle, Gustav Imbert, ou enfin des gens comme ça, on a effectivement la meilleure place du théâtre, puisqu'on est avec eux. Il y a nulle part où on entend mieux un chanteur que lorsqu'on travaille avec. Rien que ça paie de pas mal d'efforts.
Ludovic Tézier, on vous a entendu parler pas mal de Rigoletto. On sent que c'est un ouvrage assez fondateur, peut-être aussi un ouvrage qui vous relie à votre père, parce que vous aviez dit que ça faisait partie des choses écoutées ensemble, et quand on vous entend parler de la famille, on pense à tous ces pères de Verdi, qui sont des rôles magnifiques.
Mmh. Le père, quand même, dans l'opéra, c'est quelque chose. Hein. Oui, c'est papa qui m'a fait entendre, j'étais petit enfant, Rigoletto, qui m'en a expliqué la trame, l'histoire, on l'écoutait ensemble, il m'expliquait pourquoi, à certains moments, le chanteur allait dans l'aigu, enfin, de cet ordre-là. C'est assez fascinant. Et en fait, en apprenant le rôle et en le comprenant, en fait, tu t'es dit, c'est mon père. c'est le même. C'est dans l'amour, pas abusif, mais l'amour puissant, violent. De cet homme pour sa fille, je parle de Rigoletto là, il ressemble beaucoup à mon propre père, y compris du reste avec la noirceur que mon père pouvait avoir. Moi je l'entends encore me dire, si on touche un jour à mes enfants, le type qui rentrera au Beaumet, il me trouvera à la sortie, et je suis certain que ça aurait été le cas. Donc voilà, et tu entends ça petit enfant, tu dis waouh, c'est un drôle de bonhomme quand même, c'est quelqu'un. Donc effectivement, quand tu attaques le rôle de Rigoletto et que je repense à mon père, je comprends que j'ai une fascination pour ce rôle-là, parce que voilà, je le retrouve beaucoup là-dedans. Et ça ne m'étonne pas du tout que ce rôle, du reste, l'ait touché et fasciné, parce que mon papa adorait ses enfants, son fils, c'était son fils, mais sa fille, c'était quelque chose, il ne fallait pas y toucher. Donc là, voilà, là tout est dit, quand on a dit ça et qu'on dit Rigoletto après, on est quasiment... On est en harmonie parfaite, quoi. Computer pour quanto a fare ci resta, lasciare potremo questa ora funesta. È tutto un solo giorno, cangiare.
Les grands entretiens de Ludovic Tézier, France Musique.
Les personnages qui comptent, il y a un rôle, celui d'Hamlet. Mmh. Alors là, il y a une noirceur qui est assez terrible. Cet Hamlet que vous avez chanté, que vous aimez, cette noirceur, est-ce que c'est un rôle qu'on peut pas chanter tout le temps, j'imagine. Est-ce qu'à un moment, il y a quelque chose aussi qui est lourd à porter.
Ah oui, Hamlet, je l'ai dit et je le répéterai, ça n'est pas un rôle qu'on peut chanter, enfin, à mon sens, 3 productions par an, non. Si vous voulez, les méchants et les comiques font appel à pas mal de techniques, à pas mal d'inventivité assez ludique, même les plus méchants, hein, et on l'espère, encore une fois, si on joue un méchant avec son propre naturel, il faut aller consulter, parce que c'est grave.
Et vous aimez Scarpia, vous aimez Iago.
J'adore, parce que c'est amusant à faire, quoi. Iago, c'est pas amusant. Iago, c'est philosophique. Mais Scarpia, il a des côtés tellement caricaturaux que c'est Louis de Funès en pas drôle, quoi. Dire voilà. Iago, et c'est peut-être pas un hasard, est plus compliqué émotionnellement. Et on est obligé, chez Iago, d'incarner, justement, vraiment le mal, mais même pas le mal pas drôle. Vraiment quelque chose de très, 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 très noir, quoi.
Mais il faut l'aimer un peu, le personnage qu'on joue, non?
Aimer Iago, ça me paraît compliqué.
Oui, non, mais
on va
du
se
coup,
contenter d'en aimer la musique.
Est-ce que c'est difficile de jouer Iago? C'est ça que j'entends par là.
Mais il ne faut pas le jouer. Et la grande difficulté, c'est qu'il ne faut pas le vivre non plus. Et je trouve que si on joue Iago, on devient l'histrion de service et on affaiblit un personnage qui doit être extrêmement fort.
Un mot, Ludovic Tézier, sur les chefs d'orchestre. Naturellement, on ne va pas tous les passer en revue, ce n'est pas possible. Mmh. Alors, je me disais peut-être deux, Riccardo Muti et Christian Tillman.
Ah, deux très très grands chefs d'orchestre, très différents. Ce que j'aime chez ces deux-là, c'est l'énergie. Tous les deux arrivent en fosse ou en scène lors de concerts avec une vision d'une œuvre et une proposition. Quand on s'appelle Tillman ou Muti, entre autres, on a une conception de l'œuvre. Et on est là pour la défendre, à défaut de l'imposer, et pour la proposer, mais de manière forte, au public. Parce qu'on est convaincu que c'est comme ça que ça doit se donner. Et j'aime beaucoup ça. Lorsque ces deux-là vous font travailler sur leur vision de la chose, ce sont des moments de grand privilège. Parce que bien évidemment, on n'a pas affaire à n'importe qui, donc on côtoie des gens d'un niveau très supérieur et qui vous illuminent, y compris dans certains rôles que vous pouviez croire maîtriser parfaitement. Eux aussi, finalement, comme on parlait des rencontres tout à l'heure, arrivent à orienter votre regard vers un point qui vous aura peut-être échappé depuis des années. Et ça, c'est pour moi, ça c'est vraiment des moments privilégiés. Vous êtes beaucoup ces derniers temps à Munich, et notamment aux côtés d'Anne Arteros et de Jonas Kaufmann. Avec Jonas Kaufmann, vous faites aussi des concerts en duo. Oui.
Il y a l'expérience de la scène, naturellement. On a beaucoup parlé d'opéra. J'aurais aimé vous entendre parler plus du récital, en solo ou en duo, de cet art-là qui, j'imagine, est nécessaire comme contrepoint.
Le récital en duo d'opéra est très ludique, surtout quand c'est fait avec un ami, parce que là, il y a le plaisir de travailler entre amis. Et quand, encore une fois, tu chantes avec Anya, avec Jonas, avec d'autres que tu aimes et dont tu apprécies la voix et les qualités humaines, il y a un échange total qui se crée. C'est à la fois ludique et mouvant. Quand l'un ou l'autre te donne la réplique, on est à la place très, là aussi, privilégiée à la fois d'auditeur, mais aussi d'interacteur. Et ça, on se renvoie la balle. Et ça, c'est très, très, très fascinant. Et après, il y a le récital que moi j'affectionne, et Jonas du reste aussi, particulièrement, c'est le récital de lead et de mélodie. parce que je suis quelqu'un qui a démarré avec une voix qui était la même, mais avec un format beaucoup plus léger, et donc qui a fait ses premières armes dans la mélodie et dans le lead, et je tiens absolument à continuer à m'exprimer dans ce domaine, parce que c'est quelque chose qui me touche. Le lead est finalement quelque chose de très dessiné, de très pur. Ça fait aussi énormément de bien à la voix. Petit secret de ma petite alcôve, lorsque j'avais débuté mon Scarpia, vous voyez, en reboucle, à l'Opéra de Paris, la veille, je faisais ma voix parce que je devais, en l'occurrence, travailler un récital de lead, vous voyez, un petit peu de grand écart, je faisais ma voix avec du lead allemand. Et je peux vous dire que ça faisait beaucoup de bien, mon Scarpia. Il faut avoir ces couleurs. Et à l'inverse, dans le lead, vous voyez, tout nourrit tout. Et lorsque vous chantez « Ich grolle nicht » ou des choses comme ça, ou « Zu Eignung de Strauss », c'est très opératique. Finalement, une soirée de mélodie ou de lead, c'est probablement la soirée où on a la plus grande dynamique vocale possible. On peut réduire le plus possible la voix. On peut atteindre une intimité, ça j'y tiens beaucoup, avec le public qu'on voit, qui est là, qui est devant nous. Il n'y a pas la fosse entre nous. Et j'aime beaucoup ça parce que il y a un côté, là on revient au père, il y a un côté père qui raconte une histoire. Alors encore plus lorsqu'on est sur du lead comme Earl Koenig ou des choses comme ça, où là on raconte la chose extraordinaire qui est en train de se passer. On trouve des couleurs de 10 heures vraiment magnifiques. Et il n'y a guère que dans le répertoire, je dis lead et j'extrapole la mélodie bien sûr, on peut aller aussi loin dans l'expressivité.
Dans les rôles de demain, il y a Wotan, il y a Falstaff, il y a tout ça, dans les rêves de Ludovic Tézier.
Oui, mais dans ce cas-là, tout est ouvert. Les rêves, c'est propre du rêve, il n'y a pas de limite. On touchera un jour à ça, et peut-être qu'on s'en retirera tout de suite. Voilà, j'ai atteint un niveau maintenant vocal et dans la carrière où je peux me permettre de toucher à quelque chose, le tout étant d'y toucher au bon moment. Et éventuellement dire, bon non, finalement, je ne suis pas satisfait, ou les gens ne sont pas satisfaits, donc de tirer des conclusions. Si un jour, je chantais des extraits, parce que ça commencera comme ça, de Wotan, ce sera une manière de me confronter à quelque chose d'autre dans ma carrière, et je pense que je le laisserai reposer pendant des années après. Je l'aurai touché, j'aurai été content, j'espère du moins, et on mettra ça tranquillement à la cave, histoire que ça mûrisse encore quelques années. Falstaff, c'est pareil, c'était... Falstaff, aujourd'hui, est plus probable que Wotan, vu mon parcours dans Verdi. Mais les dieux germaniques ont des arcanes qui nous échappent, peut-être qu'ils vont m'aider finalement à aller vers eux. Et c'est évident que ça serait une réalisation magnifique. Mais on ne peut pas s'inventer une voix. Voilà, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, lorsque il m'arrive de chantonner, parce qu'il ne faut pas se cacher, ça fait toujours plaisir de le faire pour soi-même, il y a des choses intéressantes qui sortent de ma voix dans ces rôles-là. Ça n'est pas encore suffisant pour les produire en scène, mais l'avenir appartient aux rêves, donc on verra. Mais je dirais que le premier rôle de Wagner que je serais amené à chanter, de Wagner, tel qu'on l'entend, ce serait Amfortas, et il est devant, donc c'est très bien, je m'en réjouis.
Et il faut laisser le temps au temps.
C'est le maître mot de mon métier, du métier de baryton. C'est la patience. C'est un métier où pendant 20 ans, on dit beaucoup plus souvent non que oui. Et si les choses doivent arriver, elles arrivent.
Oh, Romance à l'étoile, pleine de promesses ici. Philippe Jordan qui accompagnait Ludovic Tézier dans cet air de Wolfram dans Tannhäuser. C'est la fin de cette série avec Ludovic Tézier, réalisation Gilles Blanchard, prise de son Laurent Lucas, mixage Valérie Lavalard, attachée de production Flora Sternadel. Les grands entretiens sont disponibles en podcast sur francemusique.fr. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau portrait d'artiste.
À réécouter sur francemusique.fr.